Débutons avec le journal d'Anne-Laure Chouin que je salue. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans ce journal, nous reviendrons également sur un week-end de manifestation des Gilets jaunes, un mouvement qui recommence ici et là ce matin et qui pourrait continuer dans les semaines à venir. Le gouvernement n'entend pas revenir sur sa politique de taxation du carburant, a affirmé Édouard Philippe hier, nous l'entendrons, sur les réseaux sociaux. La mobilisation se poursuit.
Et puis une élection qui n'a pas fait le plein, alors celle qui doit choisir un successeur à Manuel Valls à l'Assemblée. Les électeurs de la première circonscription de l'Essonne se sont très peu déplacés.
Nous irons en Israël également, où Benjamin Netanyahou doit gérer une grave crise de gouvernement après la démission de son ministre de la Défense. Et puis en Turquie, où Istanbul attend la visite de Vladimir Poutine. Il sera question de gaz russe. Après ce journal, Guillaume.
Et dans une dizaine de minutes, génocide au Cambodge. Le point sur la notion de crime contre l'humanité. Où en est la justice 40 ans après? On posera la question à Hugues Tertrais. Il est professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne.
Les chiffres de la mobilisation des Gilets jaunes ce week-end. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient près de 300 000 samedi sur un peu plus de 2 000 lieux. Une mobilisation qui s'est poursuivie hier dimanche avec nettement moins de monde, près de 40 000 personnes, selon plusieurs sources. Des blocages dont certains ont été émaillés de violence. Plusieurs manifestants ont été légèrement blessés. Une femme est morte après qu'une automobiliste a été prise de panique et a foncé dans la foule en Savoie. Des blocages commence ce matin, comme sur l'autoroute A16 à hauteur de Calais ou sur le pont d'Aquitaine en Gironde. Mais le gouvernement ne reviendra pas sur la mesure qui a déclenché la colère de ces gilets jaunes. C'est en substance ce qu'a déclaré hier le Premier ministre, invité du 20h de France 2 hier soir, Édouard Philippe.
J'entends ce que disent les Français. C'est très clair. Le mouvement des gilets jaunes, il s'est exprimé de façon très claire. Donc j'entends ça. Mais je dis aussi que un gouvernement qui changerait de pied en permanence, qui zigzaguerait au gré des difficultés, il ferait ce qu'ont fait beaucoup trop de gouvernements par le passé et il ne conduirait pas la France là où elle doit être conduite. C'est à la fin du quinquennat qu'on verra si effectivement les engagements que nous avons pris, ils ont été tenus et s'ils ont produit les résultats. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de conviction et beaucoup de détermination, ils vont produire des résultats.
Le Premier ministre Édouard Philippe qui promet également que la pression fiscale s'allégera sur les ménages avant la fin du quinquennat et qui a rejeté par ailleurs la proposition faite par le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, de réunir les corps intermédiaires pour un grand pacte de la conversion écologique. Cette protestation partie d'un ras-le-bol fiscal s'est élargie à de nombreux autres sujets. On l'a pu l'entendre dans les manifestations ce week-end. Des sujets qui ont tous à voir avec la politique menée par le gouvernement. Certains manifestants appellent ainsi à d'autres manifestations pour les week-ends à venir et proposent aux routiers ou aux ambulanciers, de les rejoindre. Une mobilisation qui pourrait donc continuer et toujours sur les réseaux sociaux. Les précisions de Hugo Charpentier.
La plupart sont de retour à la maison, mais les gilets jaunes ne se sont pas pour autant dit adieu. Certains se sont même déjà retrouvés par écran interposé sur les réseaux sociaux. En quelques clics, facile de voir qu'ils sont nombreux à vouloir prolonger la mobilisation. Illustration avec cette page sur Facebook mise en ligne ce week-end. Un nouvel appel qui s'intitule « Acte 2, toute la France à Paris ». Date prévue de l'événement le 24 novembre, samedi prochain, donc place de la Concorde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se disent d'ores et déjà intéressées. Encore une fois, le mouvement sans leader, sans structure, est donc en train de s'organiser sur la toile. Un phénomène à double tranchant pour Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la communication politique.
Les réseaux sociaux donnent de la vie aux relations humaines, à la communauté, au désir d'être ensemble. C'est-à-dire qu'ils rendent plus facile des initiatives comme celle-ci et le fait ensuite, après la nostalgie de l'action, le besoin de se retrouver, de parler, d'échanger. Ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, l'aspect plus discutable, c'est qu'est-ce que la politique peut constamment être faite comme ça, hors de toutes les structures, des partis, des syndicats, des associations? Bien sûr que non, parce que du coup, l'instrument de démocratie que représentent les réseaux peut parfaitement devenir à ce moment-là un instrument de tyrannie. Donc il faut arriver à contrebalancer ce qu'apportent les réseaux avec le fait qu'ils ne peuvent pas être à eux tout seuls une nouvelle espérance de la démocratie.
Mais de toute façon, pour que la mobilisation puisse durer, il va falloir que des porte-paroles se coordonnent. C'est ce qu'estime de son côté le sociologue Alexis Spire, qui cite l'exemple des Nuits Debout, preuve, selon lui, qu'un mouvement peut s'éteindre presque aussi vite qu'il n'est apparu.
Hugo Charpentier. Sarkozy. Le mouvement a donc fait le plein sur Internet, on l'a vu, alors que des moyens d'expression plus traditionnels sont, eux, boudés. Le suffrage universel, par exemple. Hier, dans l'Essonne, le premier tour de la législative partielle, qui doit trouver un successeur à Manuel Valls, n'a pas fait le plein. Loin de là, candidat à la mairie de Barcelone, l'ancien Premier ministre a laissé son siège vacant, après avoir été réélu à quelques voix d'écart seulement avec sa rivale de la France Insoumise et un recours de cette dernière qui s'est achevé par un non-lieu. Hier, donc, 18% seulement des électeurs inscrits sur les listes ont jugé utile de se déplacer. Le candidat soutenu par La République En Marche, Francis Choix, est arrivé en tête au premier tour avec quasiment 30% des suffrages exprimés. Il sera opposé à Farida Amrani de la France Insoumise, donc deuxième avec près de 18%. Le reportage à Évry de Steven Gouay.
Francis Choix.
Dans l'un des deux bureaux de vote de la mairie d'Évry, le dépouillement laisse assez peu de place au doute. Le maire de la commune, Francis Choix, arrive en tête.
Je veux être le député qui vous respecte, qui ait un comportement digne, respectueux de l'ordre républicain. Dans une république bienveillante et qui doit être respectée partout et pour tous. Je vous remercie.
Soutenu par les maires de la circonscription étiquetée à droite et par La République En Marche, l'édile se veut pourtant un candidat sans étiquette. S'il devait d'ailleurs s'installer à l'Assemblée, il ne souhaite pas encore dire avec quel groupe.
Je serai un député, non pas d'un parti, mais d'un territoire. Il faudra me prendre comme je suis, libre, déterminé et constructif.
Pour son adversaire, Farida Amrani, c'est justement l'un des enjeux de ce second tour.
Est-ce que vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, il y a des sièges qui s'appellent être libre ? Je ne crois pas. Donc il faut qu'il arrête de mentir aux électeurs et qu'il dise la vérité. Donc il siégera auprès d'Emmanuel Macron, en tout cas chez En Marche.
Pour rattraper son retard, Farida Amrani entend faire de ce deuxième tour un référendum anti-Macron. Message entendu par Anaïs, militante de la France Insoumise.
Là c'est vrai qu'au niveau des résultats, c'est pas l'excellence. Donc on va essayer de combler tout ça. Dire stop à la politique de Macron si on veut lui montrer qu'on n'est pas d'accord et si on veut montrer que depuis un an et demi, rien ne fonctionne, il faut dire stop.
Farida Amrani peut d'ores et déjà compter sur le soutien du candidat communiste Michel Noailles, sixième avec plus de 8%, en attendant les négociations avec l'écologiste Eva Sas qui a dépassé la barre des 10%.
Le candidat Rassemblement National, Grégory Sayol, termine troisième avec 13,7% des voix. Le candidat Les Républicains mobilise un peu plus de 10% des scrutins exprimés. Les députés qui vont se pencher aujourd'hui sur un gros dossier, celui de la réforme de la justice et la façon dont l'institution doit s'adapter. Un texte est sur la table qui suscite la colère de plusieurs magistrats, avocats et de l'opposition. Il prévoit notamment la simplification des procédures civiles comme le divorce, la fusion de certaines instances ou encore la numérisation des procédures. Ce sera le sujet du reportage de la rédaction d'Antoine Marette à 7h24, coup d'envoi des débats sur ce texte à 16h à l'Assemblée.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin en Israël. Si le gouvernement n'est pas tombé, il traverse une grave crise. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a démissionné vendredi pour protester contre la politique du Premier ministre israélien à Gaza.
Et notamment cette trêve conclue mardi dernier entre Israël et les groupes armés palestiniens, dont le Hamas, au pouvoir à Gaza. Trêve conclue par l'entremise de l'Égypte après des affrontements violents. C'est donc Benjamin Netanyahou qui assumera les fonctions de ministre de la Défense. C'est ce qu'il a annoncé lui-même. Il a rejeté hier l'idée d'élections anticipées. À Tel Aviv, la correspondance de Marie Semelin.
Benjamin Netanyahou a qualifié d'irresponsable les appels à des élections anticipées. La sécurité de l'État, a-t-il déclaré, est au-dessus des considérations politiques. Et puis il a rappelé des précédents, ceux de 1992 et 1999, où, dit-il, un gouvernement de droite est tombé, a laissé sa place à la gauche, avec elle la catastrophe des accords d'Oslo et puis la deuxième intifada. Il s'est placé en chef du gouvernement et a fait une liste de ses faits d'armes, de ses années de service militaire, avant de s'introniser nouveau ministre de la Défense. Un poste qui s'ajoute aux autres portefeuilles dont il a déjà la charge. Une manière de renvoyer dans les cordes la droite de sa coalition qu'il accuse d'avoir fait trop de concessions à la bande de Gaza, avec notamment un cessez-le-feu. De la faiblesse pour le ministre démissionnaire de la Défense, Avigdor Lieberman. Depuis le départ de son camp, le Premier ministre ne dispose plus que d'une seule voix de majorité et plusieurs chefs de parti restants se sont exprimés en faveur d'élections anticipées. Gouverner ainsi semble impossible, mais le Premier ministre refuse d'endosser la responsabilité de la chute du gouvernement. Le ministre de l'Éducation et de la Justice doivent s'exprimer ensemble. Une allocution qui sera sans doute cruciale pour l'avenir de cette coalition.
Marie Semelin, autre gouvernement qui fait face à la crise, le gouvernement britannique qui a lui aussi encaissé une série de démissions après cet accord finalement trouvé entre l'Union européenne et Theresa May sur le Brexit. La première ministre entame cette semaine une négociation intense pour tenter de faire accepter le texte. Idem pour l'Union européenne dont les chefs d'État et de gouvernement doivent aussi donner leur accord. On y reviendra dans le journal de 7h30. Le gaz russe, un enjeu essentiel en Europe, un levier diplomatique également pour Vladimir Poutine qui est attendu aujourd'hui à Istanbul pour inaugurer justement la première partie d'un gazoduc d'envergure, le Turk Stream, dont le premier tronçon est achevé. Grâce à ce pipeline, Gazprom pourra fournir l'Europe en gaz en contournant l'Ukraine. Le projet a pris beaucoup de retard, mais Turcs et Russes l'assurent, il sera fonctionnel d'ici un an à Istanbul. Alexandre Billette.
Après le nucléaire, le gaz naturel, Vladimir Poutine avait inauguré au printemps le chantier de la première centrale nucléaire turque construite avec de la technologie russe. Aujourd'hui, il sera avec Recep Tayyip Erdogan à Istanbul pour cette cérémonie qui marque la fin du chantier sous-marin du Turk Stream sous la mer Noire. Un gazoduc qui pourra transporter 31 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis la Russie jusqu'en Europe en transitant par la Turquie. Reste désormais à compléter le tronçon terrestre du Turk Stream jusqu'à la frontière grecque qui devrait être livré dans un an. Et pour Moscou, l'intérêt est indéniable. Turk Stream permet de diversifier ses sources de distribution du gaz vers l'Europe et d'offrir une nouvelle alternative qui contourne l'Ukraine. Et pour la Turquie, il permet au pays de se poser comme acteur majeur dans le transit du gaz, Ankara qui va également directement récupérer 14 milliards de mètres cubes par an pour sa consommation intérieure. Bref, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan vont célébrer aujourd'hui la coopération énergétique entre leurs deux pays, en faisant mine d'oublier que le projet a 2 ans de retard à cause de la crise diplomatique causée fin 2015 par l'avion militaire russe abattu par la Turquie sur le territoire syrien.
Alexandre Billette, le temps de ce lundi frais avec quelques pluies. Le ciel sera menaçant de la Méditerranée au nord-est. Il devrait neiger sur le relief corse et le massif central. Quelques gouttes également sur le nord et les Pyrénées. Le temps sera plus sec et ensoleillé de la Bretagne jusqu'aux Landes, en passant par le centre. Les températures dégelées ce matin entre 0 et moins 3 degrés du nord aux Alpes, de 1 à 10 degrés ailleurs. Cet après-midi, comptez de 2 à 9 degrés, 14 près de la Méditerranée.
Et on parle même de neige pour la nuit prochaine. Chaîne Anne-Laure, ça va tenir ou pas?
Alors ça, vous m'en demandez beaucoup trop.
Bon, on fera le point dans quelques instants.